nouvelle édition de l'économie en question en compagnie de trois invités chercheurs, professeurs d'économie pour commenter, pour débattre ensemble de l'actualité de la semaine. Et quelle semaine ! Comme un condensé des grands défis que l'année 2017 aura à affronter et on l'espère à résoudre. Mardi, 47e édition du Forum économique mondial commençait ses travaux dans la ville suisse bien connue maintenant de Davos, traditionnel rendez-vous des dirigeants politiques et économiques, traditionnelle critique aussi à l'extérieur contre la puissance mondialisée, sauf que cette fois-ci, plus rien n'est pareil. Voici le président chinois dans son discours d'ouverture, se présentant comme le nouveau porte-parole du libre-échange et les États-Unis désignés par tous comme les tenants du repli. Donald Trump est absent et pour cause, mais on ne pense qu'à lui. On évoque de nouvelles alliances Russie-États-Unis, Chine, Union européenne et on s'interroge beaucoup. Le même jour à Londres, Theresa May, première ministre britannique, avant de se rendre à son tour à Davos, fait le choix très clair d'un Brexit dur, je cite. Voici les Européens prévenus. Et enfin hier, bien sûr, l'investiture de Donald Trump et son premier discours de président. Après les nombreuses promesses et menaces de sa campagne et des semaines qui ont suivi, il confirme, semble-t-il, oui, quelle semaine ? Ce sera notre sujet ce matin. Trump, Davos, Brexit, Chine, la planète économique est déboussolée. Du secours avec nos invités. Philippe Aguillon, professeur d'économie au Collège de France, membre du Cercle des économistes. Philippe Martin, professeur d'économie à Sciences Po. Et Xavier Thimbault, directeur principal de l'Observatoire français des conjonctures économiques. J'accueille aussi Marie Bélan, journaliste aux Échos, notre partenaire cette semaine pour notre séquence Venez avec un chiffre. Si on a le temps, j'aimerais aussi que nos invités nous donnent le chiffre qu'ils ont choisi. C'est bien l'économie en question, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 et bienvenue à tous. Alors voici pêle-mêle, évidemment beaucoup d'événements à commenter, mais j'ai souhaité les rassembler pour donner effectivement ce sentiment de profond changement ce début d'année 2017. Peut-être que ce n'est même pas la peine de le redire, nous le savons bien, mais j'aimerais vos impressions aux uns et aux autres sur... Allez, on part peut-être des États-Unis quand même, des États-Unis que l'on annonce donc plus fermés, tournant le dos à la mondialisation. Qu'avez-vous à en dire les uns les autres qui commencent? Philippe Aguillon.
Écoutez, hier, on a entendu un Trump très décidé, tout à fait sur la ligne qu'il a depuis les primaires. Il n'a pas changé d'un pouce. Et on s'attendait qu'il mette de l'eau dans son vin, rassembleur, etc. Il déclare la guerre au monde et il dit voilà, l'Amérique d'abord. Et il annonce en fait, voilà, ça sera... je vais protectionnisme, l'Amérique avant tout. Et donc, moi, je pense que ce qu'il a dit qu'il ferait, il le fera. C'est-à-dire, il va augmenter les dépenses publiques pour reconstruire les ponts, etc., tout ce qu'il a dit. Il va faire les grosses baisses d'impôts qu'il a annoncées. Et il va faire les restrictions commerciales qu'il a annoncées.
Donc,
il va faire une grosse relance keynésienne. Ça fera une grosse relance keynésienne. Je pense qu'à court terme, il y aura un effet stimulant sur la croissance américaine. Mais à long terme, j'ai des craintes parce que ça fera augmenter les taux d'intérêt. Et puis, évidemment, l'effet de long terme des restrictions commerciales peut avoir des effets disrupteurs. Ils cassent les chaînes de valeur. Et je pense que les effets de long terme sont différents. Donc, comme souvent avec les politiques populistes, et ça, Dan Bush l'avait déjà dit il y a longtemps, les effets de court terme sur la croissance sont très positifs. Mais on peut craindre des effets de long terme plutôt négatifs sur la croissance mondiale.
Je voulais dire sur la croissance américaine et mondiale. Philippe Martin, votre analyse?
Oui, et on peut rajouter aussi
des effets... J'ai pas vous soyez un peu d'accord, là, ce matin.
Pas tout à fait. Des effets dévastateurs aussi sur les inégalités. Parce que, certes, ça va être une relance, encore qu'on ne sache pas très bien en termes d'infrastructure publique ce qu'il voudra faire et ce qu'il pourra faire, parce que les Républicains ne seront certainement pas complètement de son avis. Mais en termes de relance, ça va être une très forte baisse des impôts, mais sur les plus riches. Absolument. Donc, non seulement ça va augmenter les inégalités sociale, mais en plus en termes d'efficacité de la relance, clairement c'est pas les riches qui dépensent le plus en termes de consommation et donc en termes de relance à court terme, c'est pas évident que ce soit ce qu'il y a de plus efficace. Deuxièmement, plus généralement sur le protectionnisme, c'est vrai, je pense qu'on est à un point de bifurcation. C'est-à-dire que potentiellement, je vous rappelle, hein, on a eu la phase d'hyperglobalisation dans les années 90-2000, où le commerce augmentait beaucoup plus rapidement que le PIB mondial. Ensuite, après la crise de 2008-2009, on a eu une sorte de plateau où on arrête la mondialisation, mais on recule pas. C'est pas vrai qu'on a une démondialisation. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, le commerce mondial augmente à peu près au même rythme que le PIB mondial. Et là, maintenant, c'est vrai que si les États-Unis, qui sont quand même un grand pays, vont sur la guerre commerciale, en particulier avec la Chine, c'est vrai que là, ça peut être un point de bifurcation où là, maintenant, on pourrait avoir un vrai phénomène de démondialisation parce qu'on voit pas la Chine ne pas rétorquer.
Ne pas réagir et ne pas rétorquer.
Et, ouais. Et de même, clairement, avec le Brexit, aussi, c'est aussi de la destruction du commerce. Mais pour être très clair, on ne sait pas encore très bien ce que va faire quand même Trump sur ce sujet. Est-ce que ça va être des tarifs sur toutes les biens qui sont importés, ou bien est-ce que ça va être plutôt quelques secteurs comme l'acier, le textile, l'automobile.
L'automobile, la voiture allemande,
et donc,
notamment.
Ça va être extrêmement différent. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on rentre dans cette dynamique, hein, on ne sait pas très bien où ça s'arrête.
Vous avez parlé des... On va reparler bien sûr de la Chine et du Brexit. Sur les pays un peu plus faibles, disons, mais clients traditionnels des États-Unis, je pense à l'Amérique latine, c'est aussi une mauvaise nouvelle.
Pour le Mexique, par exemple, qui est vraiment... qui a quand même assez bénéficié du NAFTA, donc de l'ère de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique, il est clair que ça va avoir un impact très fort. Et donc, il faut se rappeler quand même que la mondialisation, ça a augmenté les inégalités à l'intérieur des pays, mais ça a diminué les inégalités entre les pays. C'est-à-dire que le nombre de pauvres a très fortement diminué dans un certain nombre de pays, en particulier évidemment la Chine, qui en a beaucoup bénéficié. Et donc, on voit que ça renverse, ça va certainement... Ce que Trump veut faire, hein, c'est, et je ne suis pas certain qu'il y réussisse, c'est renverser l'augmentation des inégalités à l'intérieur des États-Unis, mais clairement, ça va avoir aussi un impact sur les inégalités dans le reste du monde. Mais juste un tout petit point, c'est que il veut revenir sur le choc de la mondialisation, mais il va refaire un choc à l'envers. C'est-à-dire, il y a eu un énorme choc sur les travailleurs américains, et ça, il faut le dire et le redire, en effet, la mondialisation a augmenté les inégalités entre les qualifiés et les non qualifiés aux États-Unis. Il veut faire un choc en arrière, c'est-à-dire, mais le choc en arrière va avoir aussi des effets très délétères et aussi, encore une fois, sur un certain nombre d'ouvriers, de non qualifiés aux États-Unis.
Je ne l'ai pas mentionné suffisamment dans mon chapeau, dans mon titre, mais les inégalités sont aussi au cœur de ces grands enjeux du début de l'année 2017.
C'est l'enjeu essentiel.
Et on va en parler, il en était question très largement à Davos, ce qui est tout de même inhabituel aussi. Xavier Tabot.
Oui, enfin, elles sont au cœur de toute cette histoire. Il faut bien comprendre de quelle façon elles sont au cœur de cette histoire aux États-Unis. C'est que les inégalités et certains types d'inégalités, parce qu'en fait il s'agit des inégalités de revenus, et des inégalités de revenus induites surtout par l'accès au travail. Donc en fait, c'est des inégalités qui sont liées à la désindustrialisation et à l'idée que l'homme blanc, traditionnellement, qui trouvait des emplois plutôt bien payés dans l'industrie manufacturière, c'est un vieux mythe des années qui remonte à quelques décennies, aujourd'hui se retrouve contraint d'accepter des emplois de service beaucoup moins bien payés, et que ça a conduit à une radicalisation aux États-Unis de l'électorat. Donc que ces inégalités sont très spécifiques, c'est pas, enfin, on pourrait parler des inégalités de genre, on pourrait parler des inégalités de race, on pourrait parler des inégalités d'éducation, c'est pas celles-là qui aujourd'hui sont sur le devant de la scène politique, c'est vraiment ces inégalités de revenus et de revenus pour la classe moyenne
devant le travail, donc.
Devant le travail, qui travaille. Donc, voilà. Et c'est ça qui conduit à la radicalisation. Et c'est ce à quoi Trump entend apporter une réponse par la démondialisation. Alors la question, c'est, enfin, qui reste quand même posée, je veux dire, moi j'entends ce que vous dites, mais c'est qu'est-ce que va faire exactement Trump? Pour le moment, c'est pas très clair.
Il est keynésien, son programme, pour vous aussi, Xavier Tabot?
Ça par contre, c'est effectivement assez clair. Philippe, je pense qu'il va y avoir une relance keynésienne, effectivement, qui va être fondée sur des infrastructures, qui va être fondée sur un certain nombre de dépenses militaires aussi, et qui va effectivement s'accompagner, ça c'est l'autre dimension de cette relance keynésienne, d'une baisse des impôts pour les plus riches. Donc au total, quand on fait la somme des effets redistributifs de ça, ça va quand même être assez net, c'est-à-dire que ça va beaucoup profiter à tous ceux qui sont dans les travaux publics, l'immobilier, la construction d'infrastructures, ça va beaucoup profiter à ceux qui ont des revenus élevés. Il va probablement y avoir aussi des mesures de rapatriement d'argent des paradis fiscaux vers les États-Unis. Donc ça va profiter aussi à ceux qui ont des patrimoines qui sont élevés. Et donc ça va avoir une dimension de relance de l'économie, mais aussi une dimension d'augmentation des inégalités, et puis aussi peut-être une dimension de surchauffe. Ouais. De l'économie américaine.
Mais bon, pas certain que ça stimule la demande de tous les citoyens américains.
Bah, ça, il y aura des effets de ruissellement, mais ces effets de ruissellement, ils seront peut-être quelques miettes ou quelques gouttes qui vont ruisseler sur certains.
Philippe Aguillon, là-dessus, juste pour vous laisser dialoguer,
un grand défi qui a été posé à Davos, c'est que si vous voulez l'innovation, l'économie d'innovation, tout le défi, c'est de rendre l'innovation, la croissance par l'innovation, inclusive, c'est-à-dire que tout le monde soit inclus. Aux États-Unis, donc il y a eu d'abord les classes moyennes qui se sont effondrées en termes de la part dans la distribution des revenus, et puis il y a des zones géographiques qui ont été exclues de l'innovation. Donc vous voyez, l'exclusion, elle est à la fois, si on regarde l'échelle des revenus, mais également géographiquement. Et là, effectivement, on ne voit pas bien les politiques de Trump en quoi elles vont remédier à ces phénomènes d'exclusion. Je crois que ça repose beaucoup. Mais c'est évident que la fiscalité joue un rôle très important. C'est évident que l'éducation, de plus en plus de gens sont exclus d'un bon système éducatif. Il n'y a pas les ressorts qui permettent d'inclure les populations dans les révolutions technologiques, finalement.
Xavier Tambo.
Voilà. Et alors après, sur le plan du commerce, moi, je suis plus dans l'expectative. Donald Trump, c'est un homme d'affaires ou un ancien homme d'affaires, et je pense que une des leçons qu'il a tirées, c'est peut-être pas une bonne leçon, mais je pense que c'est une des leçons qu'il a tirées, enfin tel qu'on voit le personnage, tel qu'on se l'imagine de ce côté-ci de l'Atlantique, c'est que quand on négocie en affaires, il faut être dur. Il faut être dur et il ne faut pas hésiter à affirmer sa position avec toute la mauvaise foi qu'on peut imaginer.
Montrer ses muscles.
Et donc aujourd'hui, la position qu'il prend sur le commerce, là, son discours d'investiture que vous avez peut-être pu regarder hier, était de ce côté-là à la fois édifiant et presque glaçant, tellement il était limpide, on va dire, dans les intentions en tout cas, c'est de dire, voilà, ça suffit, la mondialisation elle s'est faite au détriment des États-Unis, et maintenant, on ne va pas revenir sur la mondialisation, c'est qu'on va rendre la mondialisation positif pour les États-Unis. Donc c'est son affirmation, c'est ça a été négatif pour les États-Unis. Et là, je pense qu'il y a une partie de la population américaine qui dit mais oui, évidemment, on nous a expliqué que c'était positif, mais en fait non, c'était négatif pour les États-Unis. Pour les États-Unis, hein. C'est pas un discours qui dit c'est négatif pour certains, c'est positif pour d'autres. Et donc il y a des politiques de redistribution ou d'égalité à conduire à l'intérieur d'un pays quand on s'engage dans la mondialisation. C'est négatif pour les États-Unis et maintenant on va rendre la mondialisation positive pour les États-Unis. Mais ça c'est pas un discours de démondialisation. On n'est pas à Porto Alegre avec un discours sur l'altermondialisation, loin de là. Sur il faut consommer local, il faut être plus modeste, etc. Non, c'est les Chinois se sont nourris sur notre dos. Leur monnaie est dévalorisée et on va les attaquer là-dessus. Alors c'est une position, mais je pense que c'est une position de négociation. C'est-à-dire qu'il se met face à ses partenaires en disant maintenant, on va discuter pays par pays, de façon bilatérale. Donc l'OMC, c'est fini.
On oublie l'OMC.
Les faibles dans l'histoire, le Mexique qui est hyper dépendant, qui a accepté un deal avec les États-Unis dans lequel, pour que ce deal fonctionne, il faut
ils
que ça continue. Donc
le
Mexique va se retrouver dans une situation intenable où ils vont être obligés d'accepter à peu près tout ce que Trump va leur demander. Ce qui permettra à Trump de dire, regardez, quand on tape du poing sur la table, on obtient ce qu'on veut. Et c'est un peu ce qui se passe avec l'automobile aujourd'hui. Même si c'est symbolique, c'est, je pense, quand même, il y a un petit fond. Et après, avec la Chine, je pense que ça sera une autre histoire, parce que les Chinois vont dire, oh là là,
alors
nous aussi, on est capable de négocier dur,
justement,
et on va voir ce qui se passe. Alors, dans
tout ça... Xavier Tambo, justement, à Davos, que la planète mondiale est un peu chamboulée. En tout cas, c'est le royaume du libéralisme international, on le sait, qui se pose beaucoup de questions et qui, tout d'un coup, on a le sentiment qu'il se transforme un peu en camp retranché. Alors, je reviens sur le discours du président Xi chinois, qui s'est retrouvé à défendre le libre-échange, à rappeler, c'était hier, je crois, peut-être même ce matin, je ne sais plus, que l'accord de Paris, il était plus trop question de revenir en arrière et que, bien sûr, il fallait tout faire pour le garder. Personne ne gagnerait la guerre mondiale, je cite toujours le président chinois, avec des mots très, très forts. Et là-dessus, nous arrive, et là nous nous rapprochons de nous, pauvres Européens, dans toute cette affaire, là-dessus arrive le discours très dur de Theresa May, c'était mardi en début de semaine, rappelé à nouveau, repris à nouveau jeudi, toujours à Davos. Voilà pourquoi j'ai souhaité rassembler tous ces événements. Que faire à partir des analyses que vous avez données les uns et les autres de la situation américaine? Que faire maintenant au plan, disons, rapproché? Ou plutôt, que fera la Chine d'un côté? Que peut faire l'Europe de l'autre? Allons-nous vers de nouvelles alliances?
Et je pense que c'est exactement la bonne question. C'est-à-dire que, de fait, l'alliance naturelle, c'était États-Unis-Union européenne. Et je pense qu'elle est aujourd'hui très remise en doute en fonction de ce que fera Trump. Et c'est vrai que c'est pas encore très clair ce qu'il fera. Juste une petite parenthèse sur Trump. Trump, quand même, il fait une erreur. C'est-à-dire qu'il réfléchit en effet en businessman. C'est-à-dire qu'il confond ce que la meilleure stratégie pour une entreprise et la meilleure stratégie pour un pays. C'est pas la même chose. Parce qu'il y a tous les effets politiques. Moi, je ne crois pas du tout que les Chinois ne réagiront pas si en effet il y a des mesures protectionnistes du côté américain, surtout que ils sont dans une situation où ils veulent changer leur projet de développement, leur modèle de développement sur quelque chose qui est moins dépendant du commerce international.
Oui, ce qui nous ramène à leur situation quand même de ralentissement de leur économie.
Mais donc moi ce qui m'intéresse, et en effet vous avez parlé de la COP21, je pense que c'est très intéressant parce qu'il peut y avoir en effet une alliance Chine Union européenne sur ce sujet. Si Trump considère qu'il faut sortir de la COP21, je pense que...
On peut lui répondre, nous, on continue.
Voilà. Et la question qui va se poser, évidemment, c'est celle de la taxe d'ajustement aux frontières. C'est-à-dire de dire, ben oui, si les États-Unis refusent de jouer le jeu sur la COP21, nous, on va mettre des taxes sur nos entreprises parce qu'elles émettent du CO2. Eh bien, normalement, les biens importés des États-Unis qui ne paieraient pas cette taxe et qui, donc, pollue trop, eh bien, il faut en effet mettre une taxe d'ajustement. Donc, ce débat, qui est un vieux débat, qui est un débat technique et assez difficile, il faut qu'on l'ait. Et de ce point de vue, les Chinois, je pense, potentiellement, hein, ils n'aiment pas tellement les taxes d'ajustement aux frontières, mais potentiellement, je pense qu'il y a une alliance à faire.
On pourrait réagir assez rudement. Oui,
et l'Europe est trop Philippe absente hein, de ces débats. Parce que là, on a l'impression d'être le casse-noisette. Hein. Il y a d'un côté les Américains et de l'autre côté les Chinois.
Et nous.
On est entre les deux, comme
dirait Mélenchon. Je voudrais rebondir sur ce que dit Philippe, parce que je pense que c'est très important et qu'il faut même aller un cran plus loin. Je pense qu'aujourd'hui, le jeu que veut jouer la Chine, c'est de devenir le leader que les États-Unis ont été depuis 1945, les accords de Bretton Woods. Voilà. Et que, finalement, la naïveté et la brutalité de Donald Trump, telle qu'elle s'expose aujourd'hui, leur permet de prendre ce rôle, de dire... Ben, nous, en fait, on est le leader du monde libre.
Et un pôle de stabilité.
Donc, vous avez eu beaucoup de doutes sur...
On vous écoute, on est quand même sidérés.
C'est fascinant, parce que c'est...
On ne peut pas vous imaginer, vous, les mêmes, il y a 3-4 ans ici, dans ce même studio, dire ça.
Ce qui est en train de se passer très intéressant, c'est que Trump casse l'alliance Poutine-Chine. Il dit à Poutine, moi, je vais lever les sanctions contre la Russie, mais quelque part... Tu fais alliance avec moi et tu te détaches de la Chine. Alors, est-ce que ça laisse une opportunité pour l'Europe, elle, de se rapprocher de la Chine, tu vois? Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la France doit jouer une politique plus que jamais de rapprochement avec l'Allemagne. Je pense que France-Allemagne doit... La confiance entre les deux doit être restaurée. Donc, ça nous va peut-être à la politique française. Mais il faut vraiment maintenant jouer une politique qui fait que la France et l'Allemagne marchent en tandem pour pouvoir faire face, justement, à cette nouvelle donne internationale.
Et le Royaume-Uni dans tout ça, alors qu'il nous lâche aussi, est-ce que c'est symbolique de tout ce que nous décrivons ?
C'est intéressant, le Royaume-Uni. Mais alors, avant de parler du Royaume-Uni, il y a un parallèle historique à faire qui est extraordinaire, qui est avec Ronald Reagan, quand il a fait son discours d'investiture. Parce que son discours d'investiture, Ronald Reagan, c'était une critique en règle de l'URSS. Et ce que Reagan disait avec presque autant de naïveté et de brutalité que Donald Trump, c'était « je vais mettre à bas l'URSS et je vais mettre un terme à la guerre froide ». Voilà. Et il y a un peu de Reagan dans Trump, sauf que Reagan, il avait quand même cette espèce d'intelligence qui était de s'appuyer sur la vieille alliance, celle avec l'Europe, l'Angleterre, dans ce projet-là. Parce qu'après tout, l'Europe pouvait être tentée d'une alliance avec la Russie à l'époque pour stabiliser la situation. Et Reagan avait
quand même
senti
allié,
ça.
Allié traditionnel, quand
et
même.
Et avait dit, restez dans notre camp, je suis le leader du monde libre. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a chez Trump un peu le côté, je ne suis pas le leader du monde libre. Et on retrouve un peu la même chose chez les Anglais, qui disent... nous, le monde libre, ça commence à nous fatiguer. On est un petit pays. Alors, c'est la différence avec Trump. Hein. Donc, eux, ils roulent beaucoup moins les mécaniques que ne peut le faire le camarade Trump. Parce qu'ils savent que...
Ils prennent des risques, quand même.
Dire « Great Britain first », ça va faire rire tout le monde. Quoi. Donc, aujourd'hui, ils n'ont plus la puissance navale et maritime qui leur permet d'exercer une quelconque domination sur quiconque. Déjà, s'ils arrivent à rester avec l'Écosse et l'Irlande, ça sera bien. Donc, voilà. Mais du coup... Quand même, l'Angleterre trouve de fait dans les États-Unis un allié et renvoie le reste de l'Europe avec la Chine et avec une alliance qui est quand même très très curieuse, quoi, qui est cette alliance Russie, Angleterre, États-Unis contre Europe et Chine. Enfin, bon, peut-être que pour le moment c'est juste un fantasme, mais c'est quand
c'est
même
un
retournement de situation ou un renversement de perspective qui,
cela dit, on a
qui est incroyable.
On n'a pas entendu Donald Trump parler beaucoup de, du Royaume-Uni. Un petit peu. Ah bah si, oui, il s'en est félicité quand même.
Non seulement il s'en est félicité, il a dit qu'en gros, on voit bien qu'il espère...
Pour lui, c'est la preuve que l'Europe va se disloquer.
De l'Union européenne. Et il a aussi dit, je vais faire un accord commercial très rapidement avec la Grande-Bretagne.
Ah oui,
donc il est clair qu'il se pose en substitut à la relation commerciale entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne.
Laquelle Grande-Bretagne n'est pas liée aux accords, aux tarifs extérieurs communs. Ça n'existera plus pour elle.
Si elle sort,
c'est dans le discours de Theresa May.
Voilà, a priori, ouais. Si elle sort de l'union douanière, et c'est ce qu'ils appellent le hard Brexit, ou maintenant ils appellent ça le clean Brexit. Donc dans ce cas, en effet, il n'y a plus de tarifs douaniers extérieurs, et donc elle peut négocier un accord avec les États-Unis. Mais bon courage, c'est-à-dire que ça va être, contrairement à ce que dit Trump ou peut espérer Madame May, ça va être extrêmement long, parce que entre-temps, il faudra faire la négociation sur la sortie et la négociation sur un accord entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Donc ça va être quand même assez compliqué et long. Alors, a priori, dans une certaine mesure, la clarification qui a été faite par Madame May, maintenant, dans une certaine mesure, parce que ça clarifie les choses, ça clarifie aussi le monde des possibles sur la négociation. Donc, de ce point de vue, je pense que on gagne du temps en clarifiant les choses et en ayant un Brexit.
D'être un peu flou auparavant.
Mais c'est une illusion de croire que la Grande-Bretagne va pouvoir remplacer sa relation commerciale avec l'Union européenne avec un nouvel accord avec les États-Unis. On sait en commerce international que la distance compte énormément, la géographie physique compte énormément. Et donc, vos partenaires naturels, c'est ceux qui sont proches de vous. Et pour la Grande-Bretagne, c'est quand même l'Europe, c'est pas les États-Unis, c'est pas la Chine, c'est pas la Russie,
c'est
etc.
C'est le client quand même.
Une question qui s'intéresse Philippe Aguillon. Trump, c'est sa relation avec les grosses entreprises américaines établies, quoi. Moi, j'avais l'impression, je me disais, finalement, quand même, il pourra pas faire n'importe quoi parce que ces gens, quand même, vont lui dire ce qu'il faut qu'il fasse. Mais d'un autre côté, il se peut qu'il dise, écoutez, je vous ai baissé vos impôts, je vais déréglementer la finance, je vais revenir sur les réglementations faites sous Obama, et donc vous me laissez faire ce que je veux. Et c'est très intéressant de savoir la relation qu'il aura. Parce qu'il y a des gens qui pensent, par exemple, que l'innovation aux États-Unis va être un peu stoppée parce que les grosses entreprises en place vont quelque part, avec Trump, ils ont un allié formidable. Tous les gens qui font du lobbying aux États-Unis, ils ont un allié formidable pour empêcher. Donc à la fois, si vous voulez, la politique protectionniste et cette politique de collusion avec les intérêts établis irait contre un peu l'innovation et à long terme, voilà. Il y a un petit peu ça, c'est une question que les gens posent beaucoup.
Et qui reste encore en suspens pour l'instant. Brexit, encore des dangers pour la City de Londres, dont on a presque envie de la séparer du reste de l'économie. Est-ce que le départ de HSBC vers Paris et celui de Goldman Sachs vers Francfort est le signe d'une perte de pouvoir de la première place financière au monde, il faut le rappeler, en dépit de sa non-appartenance à l'euro.
Disons que ça va pousser la Grande-Bretagne à accentuer le côté obscur de la force, qui est d'être un paradis fiscal et réglementaire. Et puis, de l'autre côté, ça va pousser le reste de l'Europe, la France et l'Allemagne, a plutôt insisté sur le fait qu'il faut une finance régulée et contrôlée par le superviseur, la banque centrale, ou l'union bancaire ou le superviseur de tout le système financier, et que ça impose d'avoir des régulateurs très actifs dans les pays en question, et donc il faut un passeport financier, c'est-à-dire que soit on peut déléguer à un régulateur britannique la régulation du système bancaire parce qu'elle sera faite selon les mêmes standards que ce qui est fait en Europe, soit à ce moment-là il faudra que les établissements financiers de la City se soumettent à un régulateur extérieur ou est un établissement en Europe qui sera le point d'entrée du régulateur. Donc aujourd'hui ce qui se passe, c'est que ça pousse à la radicalisation de ce côté, être plutôt un paradis fiscal et réglementaire pour l'Angleterre, mais perdre l'accès au marché européen, perdre l'accès à la sécurité offerte par la Banque centrale et la régulation des marchés financiers, la sécurité de liquidité, l'accès à une monnaie solide, etc. Oui. Et donc, ça risque de coûter très très cher.
Ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Ce que l'Allemagne lui a rappelé d'ailleurs.
Parce que c'est 20% de son PIB aujourd'hui, et c'est probablement les 20% qui tirent le reste de façon considérable. Donc le Royaume-Uni est en train de se préparer une crise existentielle majeure, quoi.
Eh bien, Philippe Martin, dernière indication sur tout ça, on passe à nos chiffres ensuite.
Non, là-dessus, je pense qu'on ne voit pas très clair encore pour le moment sur la délocalisation des activités financières. Je rappelle quand même que... Il y a un phénomène quand même d'agglomération des activités financières. Hein. Les financiers aiment bien être à côté d'autres financiers. C'est ce qui fait la force de la place de Londres. Et donc, du coup, il se pourrait, pour le moment, c'est anecdotique, hein, ces délocalisations, ouais. Mais il se pourrait que ce soit
s'il y en a trop qui partent,
très rapide. Parce que, mais pour le moment, on ne voit pas encore quelle est la ville en Europe qui va l'attirer. Est-ce que, en gros, ça va se jouer certainement entre Paris et Francfort? Mais on ne le voit pas pour le moment.
Merci encore à tous les trois pour vos éclairages. On passe à vos chiffres. Venez avec un chiffre, c'est la petite question que l'on vous propose chaque semaine. Et on commence avec notre partenaire des Échos, représenté par Marie Bellan. Bienvenue Marie, bonjour.
Quel oui, bonjour.
Chiffre avez-vous choisi?
Alors j'ai choisi un chiffre tiré du baromètre du Cevipof qui est sorti cette semaine sur la confiance des Français.
Sur la vie politique française, hein,
voilà.
L'étude. Ouais.
Et il y avait notamment un chiffre qui révélait donc que plus de 80% des Français font confiance aux PME. Alors que veut dire ce chiffre? Bon, que pour l'opinion, les PME sont les plus à même de relancer la croissance et l'emploi notamment. Les PME sont ainsi créditées d'une cote d'amour qui est assez étonnante en fait pour un pays comme la France, que l'on dit souvent rétif à l'économie de marché ou à l'esprit d'entreprendre. Mais je rappelle à titre de comparaison, dans ce baromètre, les PME, elles arrivent juste après l'hôpital par exemple, ce qui est étonnant. Mais alors, en revanche, bien avant les grandes entreprises qui ne sont créditées que de 46% et surtout
les banques
qui sont reléguées voilà, en fin de classement. Alors ces chiffres traduisent parfaitement le tropisme des Français pour la petite entreprise. Le small is beautiful, ça marche à plein chez nous. Alors pourquoi? Parce que ce sont des entreprises de proximité. On connaît forcément un patron de PME ou TPE dans son entourage, ce qui est beaucoup plus rare qu'un patron de 440, il faut bien l'avouer. Et parce que ce sont des entreprises considérées à juste titre comme pourvoyeuses d'emplois. À l'inverse, les grands groupes, et surtout les banques, hein, sont, aux yeux des Français, les principales responsables de la crise économique, notamment depuis 2009. Voilà le constat. Les PME sont-elles pour autant aidées et soutenues comme il le faudrait par les pouvoirs publics? Alors, c'est pas vraiment le cas. Si les hommes politiques, et on le voit très bien là, dans les débats qui ont eu lieu, qui ont animé la primaire à gauche ces derniers jours, les candidats ne manquent pas d'imagination pour présenter des mesures en faveur des PME. Je pense notamment à Arnaud Montebourg qui propose de réserver 80% des marchés publics aux PME, ou Vincent Payon qui veut élargir le taux intermédiaire de l'impôt sur les sociétés qui bénéficie aux PME. Mais dans les faits, on voit très bien que les réformes qui sont prises font souvent fi des spécificités de ces PME. Et c'est surtout vrai dans le champ social. Alors je prends juste deux exemples récents. La loi travail d'abord, bon, dont la principale disposition est la possibilité donc, de négocier des accords d'entreprise pour rendre plus flexible l'organisation. Alors ça, c'est possible dans les grandes entreprises qui ont des syndicats, qui peuvent négocier, mais dans des PME qui n'ont pas de délégués syndicaux, ça n'a aucun intérêt. De même, la réforme de la pénibilité, bon, qui se justifie sur le fond, mais qui est applicable dans les entreprises qui ont une direction des ressources humaines, qui ont des équipes qui peuvent être dédiées à la mesure de la pénibilité salarié par salarié, mais qui ne convient pas du tout à une entreprise, une petite entreprise du BTP ou un artisan boulanger par exemple. Alors c'est là donc tout le paradoxe de l'action publique en France, où les représentants, qu'ils soient de droite ou de gauche d'ailleurs, ne manquent jamais de vanter le mérite, le dynamisme des PME, parce qu'ils savent que ça plaît aux Français, mais qui élaborent ensuite des réformes qui sont souvent très éloignées des besoins de ces entreprises.
Eh bien, merci beaucoup Marie Bellan pour ces informations. Avez-vous d'autres chiffres rapidement avant notre générique? Allez, Philippe Martin le premier. Très vite, merci.
24%, c'est la part des ménages qui déclarent avoir des difficultés à chauffer leur logement. Donc il fait très froid en ce moment, donc c'est d'actualité. C'est un chiffre qui vient de sortir de l'INSEE. Ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez d'autres critères sur des problèmes de logement, ils sont plutôt améliorés en 10 ans, depuis 2004. Mais celui-là, 24%, c'est resté exactement la même chose depuis 10 ans. Et donc vrai problème de rénovation thermique sur les logements.
Philippe Aguillon ou Xavier Thimbault, vite.
Moi j'ai un tout petit
chiffre. Xavier, un tout petit.
Moins 0,2%, donc c'est un tout petit chiffre. Voilà. C'est quand même l'impact des événements climatiques sur l'agriculture, et l'impact est traduit en termes de PIB globalement pour la France. Donc on a eu des très mauvaises récoltes cette année, en 2016, et ça conduit à une baisse de PIB globalement pour tout l'ensemble de la France de moins 0,2%.
C'est bien le président Xi Jinping qui a raison. Pardon Philippe Aguillon, je crois qu'on n'a plus le temps pour un tout dernier chiffre. Promis, vous reviendrez. Voilà. Merci à notre petite équipe. Merci à tous les trois. D'abord Philippe Aguillon, que l'on vient de frustrer terriblement. Philippe Martin, Xavier Thimbault, Marie Bellan, aujourd'hui pour les Échos. Laurence Genepin, bien sûr, préparation, documentation. Et Laetitia Coillard, réalisé notre émission avec Théo Gomard aujourd'hui. Et tout de suite, ça va être les informations. Merci à tous, à samedi prochain.